On va entamer ce focus en tout cas sur l'UFC 327. C'était dans la nuit de samedi à dimanche à Miami. Il y a eu vous avez fait avec Thomas Desson, avec Mickaël Lebout en plateau tous les trois. Vous avez fait une grosse partie sur la ville de Miami qui accueillait un UFC. Ouais. C'est récurrent maintenant depuis 2023, 2024, 2025, 2026. Mais avant, la dernière fois, c'était en 2003, donc il y a eu 20 ans. Vous pouvez retrouver ça sur le replay RMC Sport hein, si ça vous intéresse. Mais voilà, il y a des accords aussi qui sont gouvernementaux avec le gouverneur de Floride qui est proche de Donald Trump. Donc il y a peut-être facilité aussi que l'UFC puisse revenir, etc. Beaucoup de choses très intéressantes à creuser dans cette émission spéciale que vous avez faite avant l'UFC 327. Et là, il y avait Donald Trump qui est venu. Hein, cette soirée-là, ça c'est assez fou parce que moi en plus, on est ici chez RMC dans le même studio que BFM Télé.
Exact.
Je passe dans les couloirs, je vois Donald Trump qui fait une déclaration en direct sur BFM et sur toutes les télés dans le monde entier, Détroit d'Hormuz, etc. machin, et il est devant la Maison Blanche à Washington. Et là, la rumeur avait déjà couru comme quoi Donald Trump allait venir à Miami pour assister à l'UFC parce que Romain Pougeot, notre reporter RMC Sport, était sur place et nous a dit. Là, il y a un truc et normalement, ça sent Donald Trump qui va venir. Ouais. Et je me dis, mais c'est pas possible. Je regarde sur Internet et je vois qu'il y a 2h50, bon, peut-être avec Air Force One, c'est un peu moins, d'avion entre Washington et Miami. Ça collait pour le début de la carte principale. Et Donald Trump est venu et c'est encore un signe à quel point l'UFC est politisé quand même. Et dans le géopolitique et ça fait aussi partie de l'ADN de l'UFC aujourd'hui.
Certainement. Sans commenter outre mesure, pendant qu'il prenait son avion pour venir regarder de la bagarre, il y avait J.D. Vance qui était en train de négocier, et d'échouer d'ailleurs, à négocier sur la paix. Et il est en train d'annoncer que ça s'était mal passé et qu'on allait probablement repartir en guerre. Donc c'est vrai que le contraste est assez saisissant. Tu te demandes, il a tellement besoin de ça pour pouvoir continuer à véhiculer certains messages, il va prendre son avion et qu'il va venir à l'UFC. Je sais pas comment t'expliquer, c'est ahurissant.
C'est ahurissant et le pire et le plus fort, on peut le voir d'un extrême à l'autre, les deux sont aussi remarquables. C'est que malgré qu'il ait beaucoup d'autres choses à gérer, finalement, ça a été lui le matchmaker de l'UFC sur cette soirée-là. Il a créé deux combats parce que il y a eu un live Instagram ou je sais plus sur quelle plateforme c'était de Dana White pendant la soirée où elle a dit j'ai appelé Derek Lewis parce que le président Trump m'a dit mais pourquoi Derek Lewis il va pas venir combattre le 14 juin à la Maison Blanche pour mon anniversaire. Donc il dit j'ai appelé Derek Lewis pendant la soirée, il va combattre contre Josh Okit qui a combattu pendant cette soirée de l'UFC 327.
Exactement.
Donc ils ont rajouté un vrai combat d'Entertainer, enfin on l'espère.
Ça va tomber là, oui.
On s'attendait à ça contre Francis Ngannou aussi en 2018 et finalement c'est resté plus que debout.
Je crois qu'Okit il pose vraiment le cerveau.
Il l'a posé depuis longtemps, je pense.
Il a posé déjà, donc lui ça va faire, mais c'est ça. Et puis il y a même Paulo Costa, tu te demandes si lui aussi va pas être à la Maison Blanche vu l'échange qu'il a eu avec Trump.
Il est resté 2 minutes au moins.
En train de lui expliquer qu'il était beau gosse et tout ça. Donc je serais même pas surpris si on apprenait aussi que Paulo Costa s'est acheté une place sur cet événement.
Ouais, tout ça est fou. Bon voilà, c'était le contexte, un petit peu extra-sportif qui relie le sportif, bien qu'on ne s'y attende pas à ce point-là, mais les deux ont été mêlés de manière assez surprenante. On va aller dans le pur sportif maintenant, Baba, sur cette UFC 327 avec les résultats soulignés sur lesquels on ne va pas revenir trop en profondeur, mais Kelvin Gastelum qui s'est fait soumettre à la première reprise contre Vicente Luque, c'était pas sur RMC Sport malheureusement parce que c'était en early prelims, et sur les combats des préliminaires auxquels on a assisté sur RMC Sport à partir d'1h du matin, Mateusz Gamrot qui l'a emporté, gros combat de Mateusz Gamrot, grosse lutte, gros grappling, et en fait il est nul dans ses call-outs, on l'a déjà dit ici de nombreuses fois au micro d'RMC Sport. D'ailleurs, je crois qu'il n'a pas été très bon encore sur son discours d'après-combat parce que c'est assez flou, tu ne sais pas vraiment où il va. Malgré tout, il prend des mecs qui sont derrière lui et les tabasse comme s'il allait tabasser des mecs qui sont devant lui. Il prend les combats très au sérieux.
Ouais, non, de toute façon, Mateusz, il est super fort. Et on a revu, en tout cas, il a rappelé aux gens à quel point il était fort parce qu'il a laissé quasiment aucune chance à Rebecki qui est un petit peu un des combattants avec une grosse hype là actuellement dans la catégorie des légers. Il a montré qu'il y avait des niveaux dans ce game et que voilà ce que ça donne un combattant qui est dans le top 10 depuis plusieurs années, un combattant qui essaye d'entrer lui dans le top 15. Je l'ai dit en live, je le redis maintenant, c'est pour ça que je regrette moi que ce soit pas Fares Ziam qui ait eu un combat contre Gamrot, parce que déjà il le mérite et je crois que la position était bien plus intéressante et bien plus équilibrée que ça. Le truc aussi c'est que derrière, comme tu l'as dit, il fait cette perf, tu fais un gros statement. Tu dis, c'est la deuxième fois que vous me donnez un mec non classé, je le bats, donc j'ai montré qu'il y a des niveaux, donnez-moi un mec devant moi. Et dans la même respiration, tu dis Diego Lopez, j'ai appris que tu allais monter, moi je te prends. Mais qu'est-ce que ça veut dire,
c'est
ça,
Matheus Gamboa, ouais, c'est pas
qu'est-ce que tu fais
tout.
Mais t'es son manager, tu pètes les plombs en fait. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? L'UFC, ils vont dire bah d'accord, avec plaisir en fait.
Sincèrement, c'est, là-dessus, c'est peut-être le pire gars à l'UFC.
Je comprends pas.
Il est top 10, ça fait longtemps qu'il est top 10, il pourrait prétendre à prendre. Non,
ils vont pas te payer plus hein, pour combattre Diego Lopez, ça, parce que je vois déjà les gens qui vont me dire ça. Non, il sera pas payé plus pour affronter Diego Lopez. Ce sera dans son contrat. Il va risquer sa place contre Diego Lopez, même si je le vois bien meilleur que Lopez, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'il le battrait. Mais non, non, tu dois call out les 7 mecs qui sont devant toi. T'as déjà perdu du temps par rapport à ça. T'as déjà Benoît Saint-Denis qui t'est passé, c'est même pas qui t'est passé devant. Là, si tu fais une analogie avec la Formule 1, lui a mis une tempête, mais laisse tomber quoi. Alors qu'il était derrière.
Bah Benoît,
et que l'année dernière, il le call out justement, tu vois.
Ouais.
Aujourd'hui, Benoît, il est en très bonne position pour combattre cet été dans ce qui peut être une des plus grosses cartes de l'année, dans un combat qui va être très intéressant, probablement. Là, il faut qu'il comprenne que pour sa carrière, c'est pas bon et il n'est pas si jeune que ça. Il n'a plus beaucoup de temps, Gamon.
Ouais, c'est clair. Et puis passer de combattre des mecs qui sont hors ranking à aller vouloir prendre un mec qui est top 3, où est-ce que tu te situes
que,
mets le curseur au bon endroit,
quelque chose, ouais, voilà.
va call out des mecs qui sont entre les deux, enfin Ziam qui est ranké désormais, enfin voilà, fais des trucs qui sont un peu plus cohérents et lui-même ça lui apportera un peu de cohérence. Et puis en plus quand il prend des gros combats comme sa défaite contre Charles Oliveira, ça se fait un peu short notice, c'est un peu last minute, voilà, mais
normalement t'es récompensé quand tu fais ça. Tu prends un short notice contre un mec aussi fort
tu
que ça chez lui.
Au Brésil.
Normalement, l'UFC te dit ok, tu nous as rendu service, on va te donner un top 5, comme ça, voilà. Ouais. Je sais pas, t'as des Dan Hooker qui sont autour de toi, t'as des mecs au pire, hein, tu vois, si tu veux call out des gars comme ça.
Surtout que face à Dan Hooker, le match-up, il serait très très profitable, à mon avis. Vu la lutte et ce qu'il a appliqué contre Ribovic, à mon avis, contre Dan Hooker, il pourrait faire quelque chose de très très bon.
Encore une fois, je ne comprends pas ces stratégies. Après, juste, il pète les plombs, c'est un combattant qui veut combattre, et ça, je l'entends, et je respecterai toujours les mecs qui veulent combattre à tout prix, mais c'est une carrière. Il y a de la gestion là-dedans.
Ouais, et je trouve que chez Gamon, tu sens une vraie fraîcheur, une vraie passion. Même au micro après, il est content, il est là.
C'est
enfin, quoi, y a pas...
c'est un c'est super
là...
bon gars.
Et c'est là où il n'y a pas de calcul. Et c'est là où il en faut un peu du calcul. Ouais.
Mais c'est pour ça que ça me frustre.
Il est très instinctif.
C'est un excellent combattant qui mérite
c'est un bon
d'être.
Mec. Il a l'air d'être un bon mec en tout cas.
Il mérite d'être plus haut que ça. Il devrait faire attention parce qu'il mérite sa chance pour le top 5 minimum.
Et puis là, un mec qui est top 10, des moins de 70, et qui est en début de prélims. Deuxième combat des prélims. Tu te dis qu'il y a une sorte d'injustice aussi. Il est vraiment pas récompensé par rapport à ce qu'il arrive à produire dans la cage.
Pas du tout.
Et heureusement pour lui et pour le reste de sa carrière, il a quand même battu Ribovic qui lui était hors classement chez moins de 70. Les deux autres combats rapidement en fin de prélims, c'était chez les welter moins de 77, Kevin Holland contre Randy Brown, et puis Aaron Pico contre Patricio Pitbull, pour les deux anciens du Bellator qui sont affrontés. Peut-être Aaron Pico, c'est la plus belle perf à souligner dans ce qui s'est fait là, parce qu'il a été vraiment chirurgical.
Il a été chirurgical. J'ai vu beaucoup de combats de Pico. Je pense que son deuxième round, c'est le meilleur round qu'il ait combattu de sa carrière. Vraiment, il a été très, très, très bon. Il a mixé tout ce qui a fait qu'il est fort et toutes les promesses qu'on avait sur lui, un lutteur de niveau quasiment olympique et une boxe anglaise phénoménale. Il a réussi à tout faire fonctionner comme il fallait. Timing, précision, vitesse, puissance, il y avait tout. Il y avait les takedowns, un athlétisme des fois irréel même. Donc le voir comme ça, ça fait plaisir. C'est une belle promesse pour la suite. Il intègre a priori le top 15 minimum, parce qu'il était 13e je crois à Pitbull. Donc c'est ça augure quelque chose de bon pour lui, j'espère.
Ouais, très bon. Et puis faut mettre quand même à son crédit sa défaite contre Aaron Murphy, parce qu'il faisait un bon combat avant de perdre finalement. Mais voilà, c'est
Murphy,
un gars qui a montré très bonne chose. Et Aaron Pico, très grand professionnel aussi.
Ouais.
On parlait d'athlète comme Anthony Joshua en début de podcast, mais Aaron Pico, les vidéos, quand ses entraînements, etc. C'est du très solide. Ça me fait penser aussi un peu à Tsaroukian, tu sais, d'une sorte de rigueur, très de shape, qui a l'air de pas trop bouger, même quand il est hors combat. Donc grand professionnel, et on espère qu'il va faire de belles choses. J'ai les moins de 66 kilos. Carte principale, on commence avec Cub Swanson contre Nate Landwehr. Je fais dans cet ordre-là, on terminera par le combat principal, mais on fait rapide sur ce qui s'est passé avant, même si au kit, je pense qu'il y aura 2-3 trucs à dire. Cub Swanson, retraite, grand combattant. Ouais. Vous avez fait un Legends avec Thomas Desson il y a peu de temps sur son combat contre Choi.
Ouais.
Il a fait un gros, gros combat BMF, je trouve. Hein.
Il est
arrivé dans une attitude Nate Diaz avec la garde en bas, les bras un peu tendus comme ça, les épaules qui remontaient un petit peu au niveau niveau des, au niveau des joues. Et ouais. puis il a envoyé des vrais parpaings. Il s'est dit, ça y est, faut que ce dernier combat, il avait annoncé, c'était son dernier combat à la retraite. Il a posé les gants juste après. C'est il a fait un beau combat BMF pour moi.
Ouais, mais de toute façon, ça a toujours été un BMF dans ce sens-là. Cub Swanson, c'est des combats de gangsters qu'il fait toujours, lui.
Ouais.
Lui, il va venir pour essayer de t'arracher la tête, peu importe qui t'es. C'est pour ça qu'il a été longtemps top 5 dans cette catégorie-là. C'est pour ça qu'au WEC, il a affronté des mecs qui sont devenus des légendes. C'est une légende du game, peut-être moins connue que les autres, parce qu'il n'a pas été champion, mais c'est une légende du game qui a affronté tous les mecs de sa génération et les mecs de la génération d'après. C'est un des combattants les plus cools qui existait dans le MMA. Je n'ai même pas peur de te le dire et je pense que j'exagère pas du tout. Moi, ouais, ça me fait un petit pincement de voir ce mec-là se retirer, mais je suis content qu'il le fasse. J'espère que c'est une retraite qui tiendra. Je vois d'autres combattants, parce qu'on dit que c'était le dernier mec du WEC à l'UFC, certes, parce qu'il y en a d'autres qui combattent encore. Il y en a d'autres qui combattent en bare-knuckle ou en je ne sais pas quoi d'autre. Donc, ça fait quand même longtemps qu'il combat.
Ouais. Il faut souligner le WEC à l'époque de la transition. C'est assez mythique, les mecs qui étaient au WEC et qui ont fait l'UFC, qui ont été tout de suite intégrés à l'UFC avec cette filiation qui s'est faite. Ouais. Mais c'est assez historique dans l'histoire de l'UFC aussi.
Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est vraiment une organisation qui est très importante pour tout le monde. Pardon. Et en fait, il fallait suivre ce truc-là. Il fallait être là à l'époque, je crois, parce que tu sais, t'avais l'impression d'être cool. C'était l'organisation un petit peu underground où les mecs, ils étaient trop, trop forts. Et donc toi, moi, je connais, donc tu vois, tu sais pas ce que c'est la WEC, la WEC, comme on disait entre nous. Et quand les mecs, ils ont été absorbés à l'UFC, j'ai presque été un peu, putain, c'est chiant parce que on va les diluer dans un produit. Ils seront peut-être moins starifiés. Bon, au final, j'ai eu tort. Pour certains, ils ont été vraiment starifiés. Ouais. Ils ont eu la lumière qu'il fallait. Donc c'est cool. Et Swanson, il fait partie de cette génération-là. Et voilà. Moi, je pense que c'est... refaites-vous ces combats parce que c'est un vrai action fighter qui était toujours là pour proposer du spectacle. Je crois que les potos Alex et Samir et Omar ont sorti un épisode sur lui.
Ouais, sur Jab Life.
Franchement, je vous invite à aller l'écouter parce que je sais qu'ils vont lui rendre hommage comme il faut.
Ouais, exactement. Cub Swanson, grand combattant de l'UFC. En plus, il me fait penser dans le personnage aujourd'hui un peu à Dustin Poirier, tu sais, le vrai américain que tu sens attaché à sa nation, attaché à son drapeau. Ouais. Le gars de la famille aussi, parce qu'il y a toute sa famille, je crois, 3 enfants. Ouais. Avec sa femme qui était, enfin tu vois, il me fait penser aujourd'hui dans ce qu'il a construit, l'image, la représentation qu'il veut dégager, il me fait penser un peu à Dustin Poirier, un peu bad boy à l'époque, qui finalement aujourd'hui c'est un peu rangé, plus un vrai père de famille, très responsable, très aimant, enfin voilà, c'est l'image que j'ai un peu de lui. Et j'ai aussi envie de me dire, qu'est-ce que ça doit être frustrant quand même de prendre sa retraite quand tu finis sur un combat comme ça. Il aurait pu recombattre, vu ce qu'il a donné, il aurait pu recombattre la semaine suivante. Si l'UFC lui dit tu recombats dans une semaine, il a pas pris de coup, il a fait un gros fractionné en gros sur ce combat contre Nate Landwehr, mais dans une semaine il aurait pu recombattre. Ça doit être frustrant quand même.
Ouais, c'est vrai, mais c'est le piège. Tout le piège est là.
Surtout qu'il doit prendre des bons billets.
Ouais.
Mais même si il était en début de carte principale, mais je pense qu'il prend minimum 150 000.
Oui, minimum.
150 000 sur cette fin de carrière.
Il doit avoir un bon contrat. Il a un contrat de mec qui a été plusieurs fois Fight of the Night.
J'imagine.
Plusieurs
en tout
bonus,
cas 100 000, je pense.
Donc non, c'est quelqu'un qui est respecté. Tu sens qu'il était apprécié aussi par l'organisation. On lui a toujours donné des combats intéressants. On lui a toujours donné de quoi se maintenir à ce niveau-là et pourquoi pas même rester autour du classement. Donc t'as raison. Ça doit être frustrant, Charles. Mais c'est le piège. Faut essayer de tenir.
Ouais, en tout cas, bel hommage. Et l'UFC qui a joué le jeu aussi, qui avait fait un clip prévu. D'ailleurs, heureusement qu'il a gagné, parce que quand tu prends un clip, si tu t'es mangé un KO et qu'il y a un clip hommage à toi avec toute la salle qui a l'image de toi qui était par terre il y a 10 secondes, ça doit être un petit peu dur. Ouais. Donc voilà, bel hommage à Cub Swanson, en tout cas, qui a marqué l'histoire de l'UFC par cette belle carrière, qui a quand même battu Charles Oliveira
par KO. Il a battu Poirier,
c'est ça.
Il a combattu. Il a pris un highlight KO par Aldo, mais bon, à l'époque, tout le monde en prenait.
Ouais.
Enfin, il a combattu tous les mecs forts de sa génération, tout le monde.
Très, très très lourd. Cub Swanson à la retraite, vainqueur de Nate Landwehr en ouverture de carte principale TKO à la première reprise. Dominique Reyes contre Johnny Walker, victoire par décision de Dominique Reyes. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat?
Ah bah il comprend pas. Je m'attendais à un combat n'importe quoi, un accident de voiture. Et on a eu un combat technico-tactique.
Il est venu juste après l'accident de voiture.
On a eu un combat technico-tactique pendant 3 rounds avec un Reyes qui était très 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 prudent.
Ouais.
Et un Walker qui du coup s'est retrouvé un petit peu neutralisé, qui savait pas trop quoi faire de ça. Je pense qu'il attendait quelqu'un de plus agressif. Reyes aussi, peut-être qu'il attendait quelqu'un de plus agressif. Donc ils se sont un peu neutralisés. À ce jeu-là, c'est Reyes qui a pris un léger avantage. Il a expliqué en conférence de presse, moi il a dit une phrase qui me fait fermer ma bouche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il dit, j'ai un fils, voilà, j'ai plus besoin du chèque que du spectaculaire. Et je n'ai rien à dire.
Ouais, mais, quand, ouais, mais si tu veux aller chercher le chèque, faire un round d'observation comme ils ont fait au premier round, par exemple, tu t'assures pas, t'as pas la certitude t'auras d'aller chercher le chèque à la fin. Donc déjà, t'as 100 000 dollars que tu peux enlever. Ouais. Si tu continues même comme ça, même les 25 000 de finish, tu peux... Donc à la fois ça se tient, mais à la fois tu vois c'est et en plus de ça, si en gros il est à, je sais pas, un mec comme Reyes, il doit être à pareil, il doit prendre 150 200 sur ses combats.
Il a été challenger donc au minimum, j'espère, donc, en tout cas pour lui.
Ouais. Et puis bon, il a quand même marqué aussi l'histoire quand même avec ce combat contre John Jones qu'il aurait pu remporter à l'époque. Bon, ça se tient, mais en même temps, c'est vrai que c'est très décevant.
Et non, t'as raison, parce que c'est des risques à prendre.
C'est des risques à prendre. Mais c'est là où tu te rends compte aussi à quel point deux profils de gros spectacles qui doivent arriver, que tu vois arriver comme des Ferrari à 300 sur. Et bah finalement, parfois, ça. On parlait tout à l'heure, mais celui-là, il est tellement marquant historiquement, le Derrick Lewis contre Francis Ngannou. Ouais. Mais parfois, ça flop complet.
Ouais, des fois, ça flop.
Parfois, ça flop complet.
Tu t'y attends pas et tu dis, ah bah, final, faut toujours se rappeler que ce genre de choses peut arriver. Surtout. Au stade où les gars peuvent en être dans leur carrière, en fin de compte, avec une analyse plus fine, tu te dis, ouais, peut-être que tu peux le voir arriver parce que Walker, il en a un petit peu marre aussi de se faire éteindre la lumière toute la journée. Ouais. Reyes, il a pris pas mal de KO et là, il était bien revenu. Il a pris un énorme KO contre Hulberg à sa dernière sortie.
Je crois que ça a été évoqué dans la soirée spéciale. Ouais. Quelle trace ça a laissé ce gros KO pris par Hulberg?
Donc, tu te dis que ça a dû probablement jouer et que, ouais, c'est vrai qu'en étant peut-être plus fin en analyse, tu te dis, c'est très possible qu'il fasse un combat comme ça, les gars.
Ouais, et puis il semble le fait d'être papa, il a aussi dit qu'il avait changé beaucoup de choses dans sa préparation, sa manière de s'entraîner. Donc peut-être que maintenant il se dit je vais essayer de garder, capitaliser sur les points de vie qui me restent pour pas en perdre trop sur cette fin de carrière. Et puis continuer à prendre mes billets. Et puis tant que je peux encore le faire, y aller sans prendre trop de risques. Et c'est ce qu'il a fait. En tout cas, ça prouve quand même que même face à des mecs qui sont assez offensifs comme Johnny Walker, il arrive à les canaliser.
Ouais, il arrive à le faire.
C'est plutôt un bon signe aussi pour s'il a envie d'aller sur ce chemin-là, sur le reste de sa carrière, c'est plutôt bon signe.
Exactement.
Aussi.
Peut-être aussi qu'il veut prolonger sa carrière, qu'il veut combattre le plus longtemps possible, entre guillemets. Je vais faire un parallèle avec André Arlovski, qui est l'ancien champion poids lourd de l'UFC. Quand il était plus jeune, c'était un casse-cou, il a la bagarre, et donc il a pris pas mal de KO. Et puis à un moment, il s'est dit, je vais combattre encore longtemps, donc il faut que je change. Et il a changé, c'est devenu un combattant qui était peut-être devenu un peu plus chiant aux yeux du public, mais il s'est préservé beaucoup, beaucoup plus. Et ça lui a permis de tenir tête à des gars pendant très longtemps, alors qu'il était très, très éloigné de son prime.
Ouais. Dominic Reyes, victoire donc sur Johnny Walker, décision, split decision hein, quand même. Donc,
c'était serré. Il a jeté le dé. Ouais.
Serré, ouais, avec donc une victoire sur ce combat. Deuxième combat de carte principale. Un combat, je sais que tu as été assez prolixe sur ce combat l'autre soir, parce que finalement, alors en fait, Romain Pougeot, notre reporter MC Sport, qu'on salue bien sûr, qui doit peut-être être dans l'avion d'ailleurs de retour de Miami, il n'a pas fait beau à Miami en plus, hein. il s'est tapé une semaine toute naze,
c'était pas fou. Ouais.
Pas un temps de fou, mais bon quand même, je pense qu'il a bien profité Romain, il nous a dit, en fait ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a un manque de hype sur cette Fight Week. Hulberg, Prochaska, ça ne fait pas déplacer les foules, il n'y a pas de latinos, et à Miami, on sait que quand il y a des latinos, quand il y a des mecs qui viennent du coin aussi, ça attire aussi beaucoup, ça peut faire une sorte d'émulsion là-dessus, ça n'a pas été le cas sur ce combat-là. En l'occurrence, Josh Okit, ça a été la star de cette Fight Week.
Ouais.
Ça a été la star de cette
clairement.
Fight Week,
bah,
que ce soit pour les journalistes ou pour les fans qui ont aimé ce personnage. En tout cas, ils ont soit aimé l'aimer, soit ils ont aimé le détester. Mais quoi qu'il arrive, Josh Okit, ça a été lui la star de cette Fight Week.
Ouais.
Et qu'on le veuille ou non, c'est une réalité.
Ouais, c'est exactement. Et il y a pas de souci là-dessus en fait. Il fait ce qu'il faut dans le monde d'aujourd'hui entre guillemets pour devenir une star. Ça fonctionne. Il y a un public qui est pour ça, donc il y a pas de problème. Parce que je sais que quand on parlait pendant le direct et qu'on décrivait ce que faisait Okit, moi évidemment j'aime pas du tout. Donc j'ai vu que certains s'en offusquaient. Ok, tant pis pour vous, j'ai envie de vous dire, parce que je vais continuer à m'en offusquer, moi j'aime pas, j'ai le droit de pas aimer, toi t'as le droit d'aider, vous avez le droit d'aimer, moi j'ai le droit de pas aimer. En tout cas, ça fonctionne, ça je te dirais pas que ça fonctionne pas, ça marche très bien, la vidéo de sa pesée, comme je te le disais, elle a fait 13 millions de vues, je crois, sur X, donc ça marche, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le monde dans lequel on est pour le MMA, eh ben grand bien lui fasse, et ça lui permet derrière de capitaliser, et ça capitalise au centuple, puisqu'il va se retrouver sur la carte la plus importante peut-être de l'histoire du MMA, en tout cas... sur la perception, peut-être pas sur le côté sportif. Donc ça fonctionne. Et puis surtout, et c'est le plus important, Et c'est le point commun avec McGregor, c'est qu'il délivre dans la cage. Ouais. Tu un peux vacu, parler, hein. Mais
je crois
qu'il
il a 9-0, je crois, maintenant, après 9-0, ce combat. 9-0, et là, il bat Curtis Blaydes.
Tu bats Curtis Blaydes, et puis tu fais une guerre pas possible. J'ai pas souvenir de la dernière fois qu'on a vu une guerre de cette intensité-là en poids lourd. Je me rappelle même pas.
Ah ouais, parce que en fait, quand ça tape aussi précisément, aussi fort, en poids lourd, à un moment, ça tombe. T'as pas cette intensité voilà, répartie sur 3
rounds. Normalement, c'est pas possible.
C'est rare.
C'est pas possible, donc là... Il y a eu de la résistance, il y a eu de la résilience. Il a montré qu'il avait du cœur, tu ne peux pas lui enlever. Mmh. Parce qu'il prend des patates de forain à un moment, tu te dis, il va tomber, il ne tombe pas. On avait prévenu avant le combat, en analyse, que c'est un combattant qui est extrêmement athlétique, qui a un passé à la fois, certes, il n'a pas été titulaire, mais en tout cas, il a fait partie d'équipe en NFL. Il luttait quand il était à la fac, et apparemment, c'était un excellent lutteur. Bonical dit de lui que c'est le seul gars, dans leurs années collège, qui a vraiment essayé de lutter pour le battre. Il faut savoir que Bonical, il était connu justement pour éclater tout le monde, et les mecs venaient pour essayer de gagner du temps contre lui. Et il dit, c'est le seul qui a essayé de me battre vraiment à chaque fois qu'on a lutté. Donc, il y avait un potentiel, il a toujours eu un potentiel, et en plus de ça, il a une anglaise maintenant, et il cogne, et il est capable de faire beaucoup de dégâts. Il s'est prouvé qu'il était capable d'encaisser les coups contre un combattant du top. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points positifs pour lui à ressortir de ce week-end. Maintenant, est-ce que j'aime bien quand il va sur des remarques borderline racistes? Ben non. Celui-ci sera pas en vidéo, mais j'espère que vous avez... Voilà, vous avez vu les autres vidéos, hein, je sais pas... Ouais.
South State, c'est autorisé, c'est même un peu conseillé. Quand derrière tu délivres, il dit allez, vas-y, fais le personnage que tu veux, Covington, voilà. Strickland, vas-y à fond et va dans ce sillage-là. Mais là, enfin, il est vraiment passé de quasiment rien à quasiment tout en 4 jours, en fait.
Ah ouais,
c'est un truc de fou.
Ah, vraiment
T'imagines que, franchement, quasiment personne ne le connaissait avant.
Ouais.
C'était vraiment sous les radars, mais grave. Et là, il va combattre à la Maison Blanche sur demande de Dana White, quasiment.
Sur demande du président.
De Donald Trump, je voulais dire.
Ouais, de Dana White et du président.
Les deux.
Il a fait ce qu'il devait faire. Il fallait capitaliser sur cet event-là. Il fallait capitaliser sur le week-end. Je pense encore plus quand il a compris que Donald Trump venait. Ou peut-être qu'il était déjà dans le secret et qu'il savait déjà qu'il allait venir. Donc voilà, il a fait le maximum. Donc des fois en tombant complètement dans la caricature, en conférence de presse. Romain Pougeot, qui a vécu un véritable enfer pour essayer de l'interviewer,
En même temps, il a dû faire peut-être la vidéo qui a le mieux marché sur le compte AMC Sport de la semaine aussi. C'est où qui était.
Exactement. Donc,
où il a son bonnet qui est en dessous des yeux, où il regarde même pas Romain. Il est là, il dit, il parle des dates qu'il est en train de faire alors qu'il est en fight week. Enfin,
non, mais quand il parle de Cyril Gane qui fait pipi accroupi. Lui-même, tu vois qu'à un moment il perd son personnage pendant 10 secondes. Tu vois, il rigole, tu vois qu'il perd son personnage et il se remet dedans. Parce que tu vois bien que même lui, il est en train de faire un truc où il abuse.
C'est là où je fais un lien avec Fury et McGregor, dont on parlait tout à l'heure, dans des personnages très instinctifs et avec beaucoup de réalité, je pense. Ouais. Là, c'est très calculé pour moi, hein, Joshua Kitt, dans le personnage qu'il fait avant. Après, là où je pourrais l'accepter, en gros, c'est s'il se dit j'ai envie d'être là pour rigoler. Vas-y, j'ai un moment, c'est que du kiff. Peut-être qu'il le fait vraiment en disant, tu vois, quand il s'embrouille avec Prochaska, est-ce que il le fait pour être s'il le fait pour être corrosif, ça me plaît moins. S'il le fait en disant je rigole et ça va peut-être faire rigoler d'autres personnes, ça me plaît un peu plus. Mais je sais pas, je vais essayer d'identifier dans quel perso il est vraiment.
C'est dur,
à travers les Fight Week, mais
ça va être dur.
Je demande à Romain comment il l'a senti.
Voilà,
tu vois, mais...
peut-être que lui pourra nous dire.
Si c'est pour se marrer, je trouve ça sympa. Ouais. Bien sûr, quand tu pars sur racisme, etc., là c'est autre chose. Tu dépasses des limites, c'est dommage si t'as envie de te marrer, mais si c'est juste envie de se marrer,
en fait, c'est ça, tu vas peut-être trouver des choses. Tu sais, il y a des mecs qui sont involontairement très drôles. Il y a des combattants qui sont comme ça, qui arrêtent de faire rigoler en fight week et tout, alors qu'ils essayent pas de faire autant de choses. Chacun ses méthodes, chacun ses personnages. Maintenant, tout le monde a le droit, enfin, les gens qui veulent être fans de ça et aimer ça, il n'y a aucun problème là-dessus, soyez-le. Mais laissez-nous aussi, nous qui n'aimons pas, ne pas aimer.
Ouais, mais moi, j'avoue que je me suis fait un peu prendre, parce que je me souviens, même pendant la soirée, pendant le combat, moi, je te regarde, je te dis, Baba, avoue que t'as un peu envie de le voir gagner. Et là, tu m'as dit, mais il n'y a pas un seul pourcent de mon être qui a envie de voir gagner.
Pas du tout.
Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que moi, je m'étais un peu fait prendre.
Et tu vois,
parce que quand je t'ai posé la question à toi, en fait, je me l'ai posé à moi aussi, tu vois.
Ouais,
et je me disais, mais en fait, il y avait un moment où j'avais envie qu'il gagne. Parce que je me disais, mine de rien, ça apporte quelque chose, que ce soit bien ou pas bien, mais et puis voilà, quand je t'ai posé la question, on avait peut-être déjà vu 2 rounds où on s'est dit bon, ok, vas-y, derrière avec sa garde basse, avec il bloque les coups avec sa tête, le mec, et il tient, et il en renvoie et il a de la caisse. Il est assez léger pour un poids lourd. Donc en
ouais,
plus,
vraiment.
Ça lui permet de pouvoir tenir. Et c'est ça où tu dis, il a en plus réussi à se prôler de temps en temps avec Curtis Blades, alors qu'il est beaucoup plus léger et que Blades, c'est un putain de lutteur.
Tu sens, ouais.
Tu dis, il a quand même réussi à faire des vrais trucs sur ce
combat. Il est là, il est fort. Non, franchement, il est bon. Il y a plein de choses de lui qui font que qu'il peut être dangereux. J'ai vu des mecs dire j'ai envie de voir le fou du bus gagner parce que ça apporte quelque chose, et je comprends parfaitement, encore une fois. Et je te dirais même que la catégorie des poids lourds, c'était un petit peu chiant là ces derniers temps. On est complètement bloqué avec ce qui se passe tout en haut. On a enfin quelque chose d'intéressant parce qu'on a Pereira qui monte, donc t'as un mec comme ça qui vient un peu foutre la merde, ça va être sympa. Maintenant, je vais te dire en toute franchise, demain tu le mets dans la cage avec Cyril, tu le mets dans la cage avec Tom, tu le mets dans la cage avec Volkov. Moi, je pense qu'il se fait monter en l'air.
Ouais.
Je te le dis clair et net. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, il va se demander si c'est pas mieux d'aller à 93. Et franchement, à 93,
vu la shape qu'il a, bien.
Ben là, je me dis que les mecs en 93 kilos seront peut-être pas super contents que ce gars-là descende, parce que athlétiquement parlant, il va leur poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, je crois.
Ouais, c'est clair. Joshua Kitt, non, c'est une vraie interrogation, parce que là, il va faire top 5, top 6.
Il va faire top 6, normalement, il était 6e, ouais, Blades.
Ouais, donc il s'ouvre les portes de beaucoup de très gros combats. Et puis, s'il arrive à battre Derek Lewis, il s'assure une belle ligne assez rutilante au niveau de son CV. Donc voilà, c'est un combattant qu'on risque de j'ai plus son âge en tête, par contre.
Je crois que j'ai une petite trentaine.
Une petite trentaine. Ouais. Donc voilà, si en plus il continue chez les lourds, généralement, c'est une catégorie où tu peux tenir un petit peu.
Il commence.
Après, s'il fait des combats comme il a fait là contre Curtis Blades, où il prend autant de coups, mais en plus, il y avait quand même de la variation. Le truc, c'est sa garde. Voilà, il avançait, il aucune garde, il prenait les coups, etc. Mais quand il était au corps à corps, il essayait de monter un peu les genoux. Mais après, il y a son déficit de taille aussi face à des mecs comme ça.
Ouais,
monter les genoux jusqu'au corps, c'est un petit peu dur pour lui aussi,
ouais,
parce
mais
que
faisait,
ça
raison.
Demande plus d'efforts. Mais il essayait de le faire.
T'as raison de le souligner, il le faisait, et il le faisait bien. Il y a des coups de genoux, moi j'ai vu qu'il y a certains qui ont fait mal. Et puis surtout, il a une capacité à accélérer avec les mains qui est assez bluffante. Il va vite et tape fort.
Son jab au troisième round.
À un moment,
il
décide de travailler
très,
que derrière
très solide,
son jab. Parce qu'à un moment, Greg Jackson, il lui dit « Je suis Greg Jackson, il va falloir que tu m'écoutes 5 secondes quand même, tu vois.
» Ça d'ailleurs, au commentaire, on entend Antoine et Taylor qui découvrent que c'est Jackson Wink qui est dans son coin.
Incroyable.
Et qui dit « Mais comment un mec comme ça peut être avec Jackson Wink ?»
Donc à un moment, il finit par, pendant 3 minutes, travailler derrière son jab. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il gagne la troisième reprise et le combat. Mais il a une capacité assez bluffante à accélérer au milieu des rounds, alors qu'il vient de prendre beaucoup de dégâts. Et d'un seul coup, il met un turbo, combinaison 1, 2, 3, les coudes pardon, qui sortent dans le clinch. Donc, encore une fois, il fait des choses intéressantes. Il fait des choses intéressantes. Et écoute, ce qu'il a fait en dehors de la cage lui a permis de capitaliser. Parce que dans le scénario où à la Maison-Blanche, il met KO Derek Lewis, pardonnez-moi de vous dire que c'est un combattant qui va combattre pour le titre très vite.
Très
bien.
Ah ouais, c'est clair. Ouais, là, si Mekao, on va voir ce qui se passe pour Cyril Gane, mais là, s'il bat Derek Lewis,
il combattra pour le titre.
Il peut être un combat d'un title shot.
Moi, je dirais ils vont le faire passer devant.
Ouais.
S'ils l'ont fait avec Pimblett et tout, je vois pas pourquoi ils le feraient pas avec lui, il est américain.
Ouais, gardons Volkov dans un coin de l'œil quand même, parce que. Mais bon, tout peut se passer.
Sur YouTube, j'ai vu une vidéo dans la semaine, la Fight Week, là où il disait. Le titre, c'est même pas Joshua Kitt Highlight. C'est écrit, c'est américain, mais tout le monde KO au premier round. Ouais. Ça, c'est le compte YouTube de l'UFC.
Okay.
C'est américain.
Ouais. Ouais, ils ont besoin de faire monter avec d'ailleurs une belle recrue chez les poids lourds, d'ailleurs, parce que tu dis que.
Ouais, par contre, dépêchez-vous tous.
Voilà, donc petite digression là-dessus. Juste. On conclut pour dire que Joshua Kitt l'emporte face à Curtis Blades, décision unanime au bout des trois rounds. On pensait pas que ça allait aller au bout, finalement
non,
ça allait au bout. En plus de ça, milieu à peu près à 2 minutes du premier round, je crois, Curtis Blades, après au début on se dit pourquoi il va pas le coller et finalement quand il va le coller, il y a une réponse,
il
et donc
relève.
Finalement ça part en striking et donc ça a été profitable à Joshua Kitt. Si la victoire va à Curtis Blades, c'est pas scandale non plus,
non, c'est pas un scandale, et tu peux te demander pourquoi Blades il lutte pas tout de suite, mais en même temps il prend un bouillon direct, donc tu perds lucidité, tu perds tout ce qu'il faut. Et puis Blade, ça n'a jamais été le combattant avec le plus gros fight IQ, on va pas se mentir. Donc, la lutte, c'était plus une option.
Ouais, exactement. Donc, victoire de Joshua Kitt qui pourrait potentiellement être à un combat du titre. On ne sait jamais ce qui peut se passer. S'il remporte deux combats, il peut être champion UFC.
Ouais.
Lui qu'on connaissait à peine il y a encore une semaine. Joshua Kitt qui était troisième combat sur la carte principale et donc grosse recrue. Toi, tu l'as dit aussi. Quand tu l'as dit, il était à côté de John Jones ce soir-là à l'UFC. Ça m'a étonné d'ailleurs, vu les histoires qu'il peut y avoir Jones, UFC,
t'as pas vu,
etc.
Il a essayé de tout reculer, là, Jones. Il a dit non, mais finalement, tout va bien. entre nous.
Okay. Ok, il veut sa place
à la deuxième manche quand même.
Ouais, putain, bah, ça y est, s'ils ont rajouté des combats.
Au pire, ils vont
s'asseoir. Ouais, exactement. Et donc, une grosse, énorme recrue qui, pour toi, pourrait faire très, très mal parce que c'est un gros lutteur.
Il va faire très mal.
Et que ça pourrait. Il est encore assez jeune, il est encore assez frais et la lutte, c'est son gros point fort, ça pourrait faire très mal chez
lui. Il est monstrueux déjà, physiquement. Athlétiquement, c'est un lutteur exceptionnel, champion olympique. C'est pas juste un autre lutteur NCAA, tu vois, c'est un champion olympique qui vient en MMA. Un combattant qui sait déjà bien utiliser sa boxe pour le combat, qui, pour se préparer à cette venue à l'UFC, a choisi de combattre dans les ligues mineures en MMA, certes, mais aussi en dirty boxing notamment. Donc il a fait des combats en anglaise quasiment. Il fait toutes les bonnes choses, je crois, et on va pas se mentir, que tu aimes Jones ou que tu aimes pas John Jones, bah s'entraîner avec Jones pour préparer ta venue à l'UFC, il y a pas mieux. Mieux pour le faire, clairement, parce qu'il va lui faire adapter sa lutte pour le MMA comme il le faut, enfin utiliser ses armes, lui donner certaines armes justement que Jones lui a pu implémenter, les coups de coude, les coups de genou, les types, etc. Donc moi je pense que il est extrêmement dangereux. Il va être poussé, donc ça va être le turbo. Ça va être un combat, puis un deuxième, puis un top 5 et un combat pour le titre si tout se passe bien. Moi, je pense qu'en moins de 5 combats, on lui donne sa chance pour le titre. Et puis, c'est un combat qui est extrêmement. C'est un gars qui est extrêmement populaire, malgré certains déboires, parce que lui aussi, il a eu affaire à la justice notamment. Mais voilà, c'est un combattant qui est populaire, qui va ramener encore pas mal de regards sur l'UFC. Donc, en termes de business, c'est une excellente recrue pour eux. Et en termes sportifs, c'est une excellente recrue pour tout le monde.
Ouais, Gable Stevenson, donc, qui est désormais combattant UFC, entouré par John Jones. En plus, c'est vrai que c'est un pattern qui peut aider hein, de temps en temps avoir un mec comme ça à côté de toi, même sur l'état d'esprit. Hein. À un moment, le mec, il a tout traversé, il a vécu toutes les époques depuis 15 ans. Juste avoir les conseils de ce gars-là, sur le côté dirty, enfin voilà, ça pourrait aider certainement Stevenson à faire la carrière qu'il souhaite à l'UFC. Et en MMA, Paulo Costa, Azamat Mourzakhanov, co-main event, donc qui avait remplacé le combat entre Taïra et Joshua Havan, puisque Joshua Havan était blessé, qu'on m'a reporté pour l'UFC 328. Et donc Mourzakhanov, qui était quand même attendu, hein, puisqu'il était à 16-0, il me semble, il avait pas mal de KO d'affilée, puncher, et finalement on a été très surpris par Paulo Costa qui arrive chez les moins de 93.
Vintage, un Paulo Costa qu'on n'a pas vu depuis 8-9 ans. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, le Paulo Costa de l'époque qui avait un vrai débit de coups, qui était agressif, qui savait boxer en avançant et en reculant. Là, en fait, il y a eu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et il commence le combat en étant Paulo Costa qu'on avait connu à l'époque, donc il avance, il est confiant. Puis il prend des coups, donc dans la deuxième, il est souvent dos contre la cage, il se déplace. Et là, c'est Paulo Costa qu'on a vu ces derniers temps, qui manque de confiance en lui. Mais il revient très bien. Il revient très bien dans la troisième. Il ajuste, il utilise beaucoup ses jambes. Et sur un kick, il finit le combat. Donc, d'ailleurs, c'est son premier finish depuis 8 ans. Son dernier finish, c'était en 2016.
8 ans.
2018, pardon. C'était en 2018, son dernier. Ça date.
C'est fou.
Mais je pense que ça va lui donner beaucoup de confiance et dans cette KT, il a une bonne carte à jouer.
Techniquement, c'est le seul truc qui a fait mal. En fait, c'est les kicks qui ont été très forts parce que c'est ses middle. Ouais. Même si Mourzakhanov, il arrivait quand même à gérer le combat, il y avait une petite impression de domination, même si le premier round 1-2, si ça va à la notation, tu ne sais pas exactement où ça va. Ouais. Mais il envoie des middle, on les entend aussi, claque bien, et c'est finalement là-dessus qu'il arrive à gagner le combat aussi derrière, sur un kick en tout cas.
Exactement. Mais c'est middle, donc c'est bien.
Et puis il y a une sorte de fraîcheur dans son attitude, dans son envie, dans son discours. Il a été bon, je trouve, dans la globalité de ce qu'il a dégagé. Bon, il a parlé 2-3 minutes avec Donald Trump. c'était assez lunaire. Hein. T'entends Donald Trump, c'est ça, lui dire t'es beau,
tu devrais pas combattre, t'es un mannequin. Enfin, ouais,
c'est pas possible. Et tu dis que ça se trouve, 5 minutes après, Donald Trump, il va voir Poutine au téléphone pour une histoire de conflit international. Et là, il dit à Paulo Costa, t'es beau. Ça m'hallucine. C'est hallucinant. Mais en tout cas, voilà, un Paulo Costa vintage et qui lui aussi. Il pourrait, c'est un nom, il a fait une belle performance, il a tapé un mec qui montait et qui était sur une belle série, il pourrait arriver assez vite à de très belles choses.
Bah, c'est clair, parce que je crois que Mourzakhanov, il était, je ne sais plus s'il était 8 ou 6 au classement, mais en tout cas il était bien classé, donc il va lui prendre sa place. Ouais. Tout de suite être dans les combattants qui comptent en 93 kilos, et on va avoir des combats intéressants, parce qu'un Costa Roundtree, c'est super intéressant. Un Costa Proasca, c'est super intéressant, etc. Donc maintenant, je pense qu'il y a certains gabarits avec lesquels il va quand même galérer. Ouais. Il y a des Golgothes en 93 kilos. Mais voilà, je pense que son arrivée à lui, l'arrivée prochaine aussi de Whittaker, ce qui s'est passé au sommet de la KT avec un nouveau champion, ça redynamise une KT qui en avait besoin.
Ouais, exactement, moins de 93 kilos, donc c'était le co-main et le main event. On a fait un petit peu différemment aujourd'hui, on a fait l'intégralité de la carte et on termine par le combat principal avec donc Carlos Hulberg contre Jiří Procházka. Ouais. Ce combat-là,
incroyable.
Ce combat-là, c'est pas sûr qu'on voit des situations comme celle-ci plusieurs fois dans. Enfin, d'ailleurs, je sais pas si on a déjà vu ce genre de situation.
Moi, avec, je me rappelle de Robbie Lawler qui met KO Melvin Manoeuf.
Ouais.
Alors qu'il se fait éclater la jambe sur les low kicks.
Ah, mais
vraiment, il a plus de jambe, il est sur une jambe en fait. Et il envoie une patate de l'espace et Manoeuf il dort.
Ouais, assez fou, on voit.
Parce que là, c'est pour un titre.
Ouais, là, c'est pour un titre. Et puis, les circonstances sont différentes parce qu'on a parlé de pitié. On a parlé de. C'est ça qui est assez fou, en fait.
Qu'il y a pas de pitié,
cette dimension mentale qu'a Procházka aussi, ce côté spirituel et un peu mystique qu'il y a autour de Procházka. On rappelle le scénario. Donc, première reprise, rapidement, c'est Hulberg qui réussit quand même à être plus agressif. Ouais. On sent que ça va faire mal et qu'il va réussir à amener le combat un petit peu là où il veut, même s'il y a un Procházka qui répond bien. Et puis, assez rapidement, sur il y a un appui qui retombe et il se fait mal au genou. Il y a des ralentis qui sortent juste après de ça. On voit que Hulberg, il se fait mal au genou. Il repose ses appuis. On sent qu'il y a des gênes, il y a des douleurs. Et finalement, on sent que cette gêne et cette douleur va carrément, à un moment, on se dit, c'est bon, il va abandonner, il va tomber par terre, il va mettre les bras devant la tête pour dire à l'arbitre, stop, arrête le combat, je ne peux plus. Et finalement, il tient. Donc, il y a déjà cette capacité mentale à se dire, allez, vas-y, on ne sait jamais ce que je peux faire, je vais rester dans le combat et je vais essayer de tenir tant que mon genou, il tient. Les appuis ne sont pas bons, il n'arrive plus à envoyer grand-chose. Et puis, là, on se dit, et effectivement, c'est ce que tu me disais juste avant d'enregistrer le podcast, tu me disais, mais là, moi, je suis son coach à Procházka, je lui dis mais tu tabasses le genou. C'était la jambe avant en plus de Hulberg. Et il n'y avait pas de changement de garde, etc.
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'éclate le genou de la jambe arrière. Donc c'est la jambe droite où le genou pète. Le problème, c'est que tu as besoin d'être sur tes appuis pour pouvoir bloquer les low kicks qui viennent sur ta jambe avant. Donc c'est encore pire que ça, Charles, parce que sa jambe droite, elle est foutue. Et sa jambe gauche, Procházka, il est en train de lui faire un boulot. Donc normalement, dans 30 secondes, t'as ni jambe droite ni jambe gauche en fait.
Rien.
C'est pour ça que oui, à sa place, il faut bombarder la jambe avant. La jambe droite, elle est plus loin, donc c'est un peu plus difficile d'aller la chercher. Mais la jambe, t'as juste à lui tabasser la jambe avant. Et
mais en plus, on le disait dans la preview, mais c'est un kicker qui est Hulberg contre un mec du Muay Thai.
Ouais.
Donc en Muay Thai, il sait faire.
Mais bien sûr,
il sait faire. Venir casser les appuis, envoyer des jambes. Il sait le faire. Et en fait, donc ce qui se passe, c'est que on sent que Procházka, tu sais pas trop ce qu'il veut faire. Parce qu'à un moment, il fait la convocation en mode Max Holloway. Tiens, viens ici, on se tape, on se défonce, on y va. Alors qu'il voit qu'il est blessé, il suffit juste sincèrement. Il a une allonge assez grande pour pouvoir rester à distance, etc. Et puis, il suffit d'envoyer, de tabasser le genou. Et puis, à un moment, il va tomber.
Ouais.
Et il n'y aura pas d'autres choses qui vont se passer que ça. Et finalement, il en parle derrière, il y a un petit peu de pitié, il se dit mais attends, je vais pas terminer le combat comme ça, c'est un peu triste, c'est un peu si. Et là, c'est là où ça souligne aussi le KO power de Hulberg, parce que ses appuis ne sont pas bons, parce qu'il peut plus vraiment s'ancrer sur ses appuis. Et pourtant, sur ce crochet assez court là qui passe, qui vient terrasser Procházka, Procházka qui est envoyé au sol, un peu de ground and pound et le combat est terminé. Hulberg est champion de l'UFC.
Exactement. Il y a eu à la fois de la force de frappe, mais surtout de l'intelligence, parce que tu regardes la séquence et tu vois que par deux fois juste avant, il le calibre le crochet du gauche en train de reculer. Il le calibre, il prend ses repères, il monte les mains, il le calibre une première fois, il se dit ça peut peut-être passer, il le calibre une deuxième fois en mode ça va passer. Et donc, il va monter les mains pour lui envoyer le crochet du gauche, exactement comme Adesanya a mis KO Pereira dans sa revanche, le seul combat d'ailleurs qu'il gagne contre Poatan. C'est la même séquence. Il monte les mains, il attend l'ouverture, il envoie une patate, sauf que lui, il n'était pas blessé, mais il était quand même touché. Il prenait des genoux, il prenait des crochets, etc. Donc, intelligence de combat, tu sens qu'il s'était bien préparé, qu'il avait aussi identifié certains défauts de Procházka sur son excès d'agressivité et sa gestion de la distance, et donc ça touche et ça met KO, et il a fait la chose qu'il devait faire. Donc magnifique, magnifique manière de devenir champion. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Procházka qui te parle de pitié, j'essaye de faire... Alors, s'il n'avait pas répété derrière à froid, je serais peut-être pas aussi dur que ce que je vais être là dans une seconde, parce que j'aime pas les interviews à chaud. Tu viens te faire mettre KO, Rogan qui arrive avec son micro sous le nez, qu'est-ce que t'en penses? Tu as ces neurones qui sont encore par terre, tu te doutes bien qu'il va pas dire des choses qui sont lucides, en tout cas qui viennent de la lucidité. Donc lui, il dit qu'il a eu pitié, il le dit une première fois. Et ensuite, il le redit plus tard sur ses réseaux, quand il est à froid, il le redit même, je crois, ce matin encore. Et c'est là où ça me dérange. Et là, ça me dérange, ça va déranger ses coachs. C'est du combat, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a aucun cadeau à faire. Si tu fais des cadeaux à l'adversaire, tu te retires des cadeaux à toi. c'est un sport. Il y a d'autres sports où tu peux pas en faire. Je me souviens qu'Armstrong avait dit ça sur un Tour de France à l'époque. Mais là, c'est le combat. Les conséquences, elles sont terribles parce que les conséquences, elles font que tu dors. Les conséquences, elles font que tu perds tes neurones. Et les conséquences, elles font que tu vas pas devenir champion alors que tu aurais dû l'être, que tout le monde t'attendait. Tout le monde est fan de Prohaska. Je voyais des gens sur les réseaux sociaux. Je pense à Jawen notamment qui veut même plus tweeter. Mais les gars, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Il avait combat gagné. Il fallait juste terminer le boulot. Il pouvait le faire. Même en étant prudent, en plus, il pouvait le faire. Même si c'est pas Prohaska. Mais là, il a clairement déconné. Et si j'étais l'un de ses coachs, je sais même pas quoi lui dire. Tellement je suis énervé.
Tu lui aurais dit quoi ? Sortant de la cage, tu lui aurais dit quoi ? Premier mot que tu dis à ton gars alors qu'il avait le combat gagné et qu'il perd un titre à l'UFC.
C'est très dur à dire à ton élève. C'est très, 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 très dur à ton élève. Surtout à chaud parce que tu dois le réconforter. Donc, tout de suite, en sortant de la cage, je crois pas que je vais lui...
parler.
Je crois pas que je vais lui tomber dessus comme ça tout de suite parce que c'est dur. Il y a des coachs qui le font. C'est peut-être dur. Mais franchement, en analyse derrière, lui dire tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et tu me parles de pitié, là. Enfin, tu te rends compte de ce qu'on a investi dans le camp d'entraînement, du temps, de l'énergie, de l'argent, de tout ce que tu veux. Non, et toi, tu me parles de pitié.
En fait, de la pitié que lui a eue pour Hultberg, c'est nous qui en avons pour lui. Parce qu'en plus,
ouais.
tu te dis, mais quelle tristesse, sa femme est enceinte, elle va accoucher d'ici une semaine. C'était un peu l'objectif d'une vie, parce qu'on parle de combattant mystique, lui c'est le number one.
C'est lui qui
te sens que c'est-à-dire qu'avoir la ceinture, ça vient récompenser un truc très spirituel en plus d'un truc sportif.
T'as la voix du Bushido, tout ça, j'entends, il y a un code, mais...
Je pense que la marque, alors lui après dit aussi au micro, on apprend à parler des fêtes, et c'est grâce... Mais bon, voilà, je pense que ça va être très compliqué de s'en relever. Et puis, il pleure au micro de Joe Rogan derrière.
Lui aussi, il faut qu'il apprenne à mettre fin à des interviews.
Je sais que Taylor, ça, il a un peu de mal avec les interviews des braves dans la cage.
Ah, il saoule.
C'est vrai que ça, il faut. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller interviewer.
Un mec qui s'est fait mettre KO, pour moi, jamais déjà.
Ouais, en plus,
déjà.
C'est ça. Ouais,
pour que ce soit bien clair, pour moi, jamais.
Pourquoi s'exposer devant la salle, à parler d'un truc que tu
C'est un mec qui vient de prendre une commotion. On va pas donner pas le micro à un mec qui vient de prendre une commotion. Je te fais un parallèle ultra large. Accident de la route, le mec qui se relève. Comment ça va, monsieur ? Bah, je sais pas, j'étais dans un accident de la route, en fait, j'en sais rien.
Ouais.
Donc, c'est ça. Jamais bon à faire. Et puis là, écourte. Une phrase, si tu veux avoir une phrase, ok, pourquoi pas. Là, t'es en train de lui faire un podcast, mec. Ouais.
Puis en plus de ça, c'est là où ça continue dans le côté, on réutilise le mot pitié, parce que c'est le mot qui a été utilisé autour de ce combat. La salle se vide derrière, lui, il est debout, il n'arrive pas à parler. Joe Rogan ne sait pas trop quoi lui dire.
Enfin, il pleure.
Cette séquence, elle est vraiment pas géniale. Ça se termine très, très mal pour Yair.
Et c'est tellement un bon gars. Tu veux que être fan de ce mec. Parce qu'il n'y en a pas. Malheureusement, on est mal servi en MMA. Il y a beaucoup de. Pardonne-moi l'expression, il y a beaucoup de connards. Donc de voir un mec comme ça, tu veux que être derrière lui, tu ne veux que sa réussite. C'est aussi pour ça que je suis dur avec lui, parce que il le sait, il combat depuis tellement longtemps, il sait qu'il n'y a pas de place pour la piste, c'est le combat. Le mec qui va frapper, qui va se péter le tibia en deux, Anderson Silva, évidemment que tu ne vas pas aller lui sauter dessus et célébrer derrière, non, là c'est la place pour de la pitié, pour de la bienveillance, etc. Par contre, là, t'as pas terminé le combat. Après le combat, termine-le, va le voir tout de suite. Va le voir tout de suite et montre justement ton respect, ta bienveillance. J'ai vu que tu t'es blessé. J'ai pas le choix. J'étais obligé de te terminer. Et ensuite, on est ensemble, on est poteaux si tu veux. Mais dans l'action elle-même, faut être froid parce que c'est du combat. C'est toi ou c'est moi en fait. Et si je suis dans ton coin, bah, je te dis c'est toi. C'est pas lui, c'est toi. Donc fais ce que t'as à faire pour terminer le combat.
Fin très spéciale. D'ailleurs, j'étais en train de réfléchir, mais ce coup, est-ce que tu sais ces interviews d'après combat sur le perdant, c'est pas Conor McGregor quand il perd contre Poirier qui s'est fait la cheville, tu sais, il parle de sa femme, etc.
C'est le pire flop de l'histoire de Joe Rogan.
Mais est-ce que ça a pas mis un update parce que on le voyait pas tant que ça avant. J'ai l'impression d'aller.
Joe Rogan, je l'ai toujours reproché moi perso. Mais c'est quand même longtemps. Maintenant,
En plus, il y va, mais il parle sur la femme.
Il s'assoit à côté de lui, il tend le micro, l'autre il parle de sa femme, et il continue avec un sourire. Ouais, super Joe. Seigneur.
Mais bon, j'ai pas l'impression qu'on interviewait beaucoup les perdants avant, avant ça. Je sais pas.
Ouais,
j'essaie de
moi, je sais que ça fait longtemps que je reproche, comme ça, en
mais,
tout cas. Donc,
mais bon, ça, c'était.
Il y a d'autres fois avant.
Mais ils le font souvent maintenant.
Mais voilà.
C'est... Après, voilà, il y a plusieurs trucs. Si c'est une décision et que c'est un ancien champion, limite, tu. Allez, là, bon, c'est un
ouais,
ancien champion,
Prochaska,
mais là, il se fait mettre.
Moi, ça me gêne quand le mec se fait mettre KO. Ça me gêne que tu viennes lui mettre un micro alors que le gars, tu sais qu'il est pas lucide. T'as besoin d'aller t'asseoir dans le vestiaire. Mais tu sais, le combat, c'est dur. J'ai vu des choses. Je vais te parler de Brice Guidon un jour, il a fait un tournoi, il a même pas pris un KO. Je sais pas s'il nous écoute Brice, mais je lui passe un grand bonjour dans le sud de la France. Il fait une guerre, mais pas possible. Il sort du ring, il sait plus parler en français. Il parle en hollandais. Tu te rends compte ? Le combat, c'est des dingueries. Tu vas avoir des choses folles dans les vestiaires. Tu vas devoir expliquer à un mec, t'es dans quelle partie du monde ? Il est quelle heure ? On est quel jour ? Et qu'est-ce qu'il vient de faire il y a 5 minutes ? On en est là. Et je t'ai déjà expliqué, moi, Charles, qu'il y a un combat. Je me rappelle pas du premier round. Je me rappelle pas de rentrer dans le ring. Je me rappelle pas, en fait. Je me rappelle de l'eau sur ma gueule. Et qu'est-ce qui se passe ? On est où ? Le mec, il t'explique que tu viens de faire un premier round, tu t'es fait compter.
Peut-être comme, comme Patrick Cabirois et Boris,
Tangana,
ouais. Ils se souviennent de rien. Ils se souviennent.
Et c'est marrant, ça fait plus de 20 ans. C'était en avril,
20 ans.
En avril 2006. Bah, tu vois.
Mais au moins 20 ans après, tu t'en souviens.
Non.
Non,
je me rappelle pas du round. Je me rappelle de ça, quoi. Mais c'est tout.
Donc, tu te rappelles de plus te rappeler.
Exactement.
C'est déjà bon signe.
C'est terrifiant. Donc, non, pour moi, faut pas blaguer avec ça. Et il faut. Voilà, il faut redevenir un peu plus rigoureux par rapport à ça.
Ouais, bon, ça va, le cerveau n'a pas été trop endommagé. On rappelle, là, tu viens ici quasiment à chaque fois sans aucune fiche, donc tout est stocké dans la tête. Donc peut-être que ça a servi de remettre des choses en place.
Parce que moi, je le dis toujours, en toute franchise, ça m'a tellement terrifié que j'ai arrêté.
Ouais. Bon, on verra si Prochaska, moi j'ai hâte de voir juste comment il va digérer ça, parce que lui qui est justement assez profond comme mec, est-ce qu'il va tellement intérioriser tout ça, ça va tellement le marquer, il va tellement être traumatisé, parce que concrètement, t'en fais des cauchemars de ce combat-là. Tu te prends un KO, alors que c'est toi qui avais juste à envoyer 2-3 kicks comme si t'étais un sparring, mais lambda, c'est-à-dire que c'était le mec le moins dangereux
face
à toi.
Imagine, il ne devient pas champion derrière, il va le regretter le reste de sa carrière.
Il délaisse sa garde, il y a tout qui se délite un petit peu, et voilà, c'est un gros manque de professionnalisme quand même de pas savoir gérer ce genre de situation
c'est terrible pour lui et un énorme coup de chapeau à Hulbert qui a su tirer profit de la situation et qui a une énorme vous savez quoi
quoi je vois pas du tout
paire de coups de poing
en tout cas c'est ça et ça souligne encore une fois le KO power qu'il a
c'est clair
parce que réussir sans appui tu pourras le confirmer j'imagine mais sans appui à mettre ce coup là
avec le doute dans la tête tu vois
et puis parce que revoyez moi c'est pour ça dans ma preview je voyais quand même beaucoup j'avais mis Prochaska parce que j'avais ces souvenirs de Hulbert de Rountree qui lui fonce dessus qu'envoie des crochets hyper larges avec bien ancrés au sol etc qui tombe pas. Et là, il tombe sur il y a la précision aussi qui va
bien,
avec la puissance, mais le relâchement qui est appliqué. Et donc la force mentale de rester dans le combat et d'être aussi relâché à un moment où tu dis tiens, j'ai peut-être une petite ouverture, ça prouve que c'est un grand combattant et donc il mérite cette place et cette ceinture. Donc Carlos Hulbert, désormais champion chez moins de 93 kilos à l'UFC. La suite pour cette catégorie, d'après toi, Baba, qu'est-ce qui va se passer Hulbert, désormais champion, en Kalaev, un petit peu dans l'antichambre, qui va rester challenger numéro 1, ça devrait être lui. En même temps, il reste sur une défaite. Il y a Rountree qui est encore pas très loin. Qu'est-ce qui va s'articuler ? Comment ça va se passer ?
Moi, c'est très clair. Pour moi, tu fais Hulbert en Kalaev et tu fais Prochaska Rountree 2.
Donc, tu laisses ces mecs-là, par exemple, est-ce qu'un Costa, il pourrait pas arriver très vite dans une discussion ?
Ouais, mais pour moi, il faut lui donner un autre gars, tu vois, pour montrer qu'il est bien installé dans la KT. Et puis ensuite, peut-être que tu lui donnes une chance pour le titre. Il faudra voir comment Whittaker se comporte quand il monte.
Ouais.
Mais moi, je pense que tu fais ça. Ces quatre-là, pour moi, ils doivent encore. Le faire. Hulbert, il doit prendre en Kalaev. En Kalaev, il mérite une chance pour le titre. Certes, il a perdu contre Poatan, mais il avait battu. Donc, actuellement, sur le papier, lui et Hulbert sont les meilleurs combattants de cette KT. Et Prochaska, Rountree, franchement, ça fait sens. Tu fais une revanche d'un très très bon combat. Sauf que cette fois-ci, tu le fais en 5 rounds, tu le mets en main event de quelque chose, d'un fight night, j'en sais rien.
Ouais.
Pour avoir 5 reprises de ce combat-là et pouvoir déterminer ensuite ce qui se passe.
De toute façon, c'est simple, dans cette catégorie, tu peux pas intégrer beaucoup d'autres mecs parce que derrière, il y avait Manzakhanov qui allait arriver dans cette discussion-là, mais il a perdu contre Costa. Costa va le remplacer à cette place-là. Donc là, on est lundi, donc les classements vont être updatés demain. D'ailleurs, c'est encore Alex Pereira qui est le champion pour l'instant de cette catégorie-là. Mais en fait, dans le top, il y aura Carlos Hulbert qui va passer champion. Je pense qu'en Kalev va rester contender numéro 1 parce que Pereira, ils vont le virer de la catégorie. Ils vont le sortir. Et derrière, je pense que Prochaska va rester numéro 2 et que Runtri va passer numéro 3 à la place d'Ulberg actuellement. Donc ça fait un champion Ulberg, un Okalaev, deux Prochaska et trois Runtri, ou alors ouais. Tu passes Runtri devant Prochaska ouais, parce que Prochaska ouais, a perdu. Ouais. Mais derrière, les mecs, c'est Boakhovic, il y a Mourzakhanov qui a perdu, il y a Jamal Hill, il y a Guskov, il y a Özdemir, il y a Reyes qui va peut-être gagner quelques places aussi, Rakic et Johnny Walker. Mais ah, donc la discussion, elle se fait que avec les quatre
noms qu'on a cités.
Il y a Costa. Costa, il lui faut une victoire de
ça
plus et il vient dans la discussion.
Faut que
Parce que Reyes, s'il avait fait un gros truc, il est 10 pour l'instant. S'il avait fait un gros truc contre Walker, il va gagner une, deux places.
Peut-être même qu'il va juste rester sa place.
Il
n'y
a pas beaucoup d'articulation de solutions possibles.
Non, c'est pour ça. Pour l'instant, tu as le top 4-5 et tu as le reste pour l'instant.
Catégorie peut-être la moins excitante du coup à l'UFC actuellement. Est-ce que Ulberg vient redynamiser, vient redonner un peu de couleur à cette KT pour toi?
Bah, pour moi, il est déjà bien intégré à la KT. Il a déjà battu les mecs et tout, donc il est déjà identifiable. Donc c'est bien d'avoir un nouveau champion, mais ça redonne pas plus de couleur que ça. Voilà, encore une fois, des montées qui sont intéressantes et voilà, il faut du sang frais. Donc peut-être que d'autres middleweight vont suivre l'exemple de Whittaker et Costa, surtout en ayant vu Costa gagner. Et peut-être que là, ouais, ça va redynamiser la KT. Juste un petit mot à dire avant le générique, par contre.
Bien sûr.
Si on a fini.
Je t'en prie, je suis bon sur l'UFC 327, évidemment, t'as la parole.
C'est très triste, malheureusement, ce que je vais dire. C'est beaucoup moins bon enfant. Mais pendant qu'on faisait l'épisode, je viens d'apprendre que l'un de mes collègues coach qui se battait contre la maladie est décédé, s'appelle Mustapha. Donc je voudrais lui rendre un grand hommage à lui et à mes collègues coach du Temple Noblard. Il était avec nous. Et à son grand ami Alex Ngomprizo, qui est une figure du Muay Thai en France. Voilà, donc beaucoup de tristesse de recevoir ce message, même si malheureusement, on savait que c'était compliqué. Donc un gros big up à lui, à toute sa famille, que son âme repose en paix et que toute la famille du coaching en France, en tout cas, est avec vous et se tient à ses côtés et honorera sa mémoire à Mustapha.
Mes condoléances, Baba, du coup, d'apprendre le décès de ton ami et du coach. Et donc, évidemment, on espère que la communauté des coachs en France et du AMC Fighter Club est avec toi dans cette épreuve. Baba, on pense à toi et on pense évidemment à lui et à sa famille. On lui rend hommage dans cet épisode du AMC Fighter Club. Du coup.
C'est pour lui.
Et au Temple du Noblard, du coup, qui doit être très affecté aussi, cette salle parisienne dans laquelle tu travaillais avant, et où tu te rends encore régulièrement, je crois, pour t'entraîner.
Ouais, j'y vais de temps en temps. Voilà, je vais les voir, les gars.
Si vous voulez croiser Baba, vous pourrez aller croiser les gants avec lui.
Yes.
Gros hommage à Mustapha, du coup, et on se joint à ta douleur, Baba.
Merci.
Bon. On termine sur une note moins gaie, mais bon, forcément, on essaie de garder le sourire.
Il faut la vie continuer, Moussa, c'était quelqu'un de souriant, donc on continue et on est bien, on est avec lui.
Grosse pensée à lui et à sa famille, à toi, Baba. Je te remercie en tout cas d'être resté dans l'épisode quand même d'avoir continué ce débrief parce que ça reste assez léger, hein, même si on parle de pitié, on parle de tout ça avec
Prochaska,
ça reste du sport, ça reste
c'est que du sport,
ça reste de l'entertainment aussi, donc la vie se passe à côté. Je pense que Prochaska, c'est ce qui peut l'aider, il y a son enfant qui
Il a de belles choses pour lui de se refocus. Voilà. Comme il a dit, il va être témoin du miracle de la vie. Et c'est ça le plus important. Vivez, prenez soin de vous, visitez vos proches et tout ce qu'il faut parce que la vie, ça passe vite.
Ouais, exactement. Voilà, Baba. Bon, on te remercie.
Merci à toi.
Grosse force à toi et à tout le monde. Merci à Arthur Robert qui était aujourd'hui en régie. Et on se retrouve très vite pour le AMC Fighters Club.
Très, très vite.
Ciao, Baba. Merci.
RMC Fighters Club.